Donc l'idée c'était sur cette fin de matinée de vous parler des partenariats internationaux du réseau de Léa. Et notamment on rentre du Québec, Virginie, Laurent et moi. On devait être à quatre voies avec Aurore Monet, mais Aurore est dans l'Est. Pas d'essence, pas de TER pour rejoindre le TGV. Et malheureusement, elle n'est pas avec nous ce matin. En revanche, elle devait nous parler de certains éléments qui vont être repris dans un rendez-vous de Léa, puisque je vais vous en parler. Voilà, c'était très intéressant ce dont elle devait nous parler. Parce que le choix, c'était de reprendre un petit peu quand même un historique et de repositionner nos partenariats, vous expliquer un petit peu ce que c'est, ce qu'on a fait, ce qu'on prévoit de faire. Donc, c'est un partenariat entre réseaux de recherche collaborative avec l'ELEA et puis au Liban, un réseau qui s'appelle l'ELEA Libanais, qui existe depuis 2018 et qui s'est constitué en partenariat direct avec le réseau d'ELEA. Et puis en 2020, on a eu un soutien de la DREC, qui est le service des relations internationales du ministère de l'Éducation nationale, et qui nous a permis d'étendre et d'élargir nos partenariats. Et donc d'élargir à un conseil régional des écoles du Québec, vers le lac Saguenay, le lac Saint-Jean, pardon, ceux qui connaissent, et au bout du Saguenay, qui est un consortium des écoles, c'est un réseau de recherche collaborative, on va dire, qui existe depuis 1998, donc a toute une historique, et qui depuis 3 ans a développé une équipe de recherche sur les partenariats de recherche. Donc avec un peu un même travail que nous, puisque le réseau d'ELEA, on développe des analyses, des études et des recherches sur la collaboration. Il y a cette même démarche dans le réseau québécois. Alors ces partenariats, j'ai parlé de la DREC, mais on est aussi fortement soutenu par l'Institut français du Liban depuis le début, je vais dire. Et puis pour cette visite au Québec, on a été soutenu aussi par le CREM, un laboratoire de recherche d'ELEA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça a marché? Un tout petit peu d'historique pour se mettre en synergie tous ces réseaux. Je dirais que si je ne reprends pas l'historique d'ELEA, mais à partir du moment où on s'est retrouvés les trois pays ensemble, de janvier à octobre 2021, si vous vous souvenez, on était en plein confinement, et on a mis en place un séminaire de travail à distance entre les coordinateurs et les équipes de coordination des réseaux pour essayer de comprendre qui on était, ce qu'on faisait, ce qu'on pouvait faire ensemble. Et on a ensemble organisé une visite d'études des Libanais et des Québécois à Lyon à la rentrée dernière, au séminaire de rentrée de l'année dernière. Ils sont venus pendant une semaine, ils ont pu visiter l'ELEA, ils ont pu participer au séminaire et ensemble, on avait construit une journée d'études sur la question de la collaboration dans cette période de crise sanitaire. Autrement dit, comment on maintient de la collaboration quand on est à distance, qu'on ne peut plus rentrer dans les écoles, qu'on ne peut plus... Voilà, donc c'était la problématique qu'on a essayé de traiter ensemble. Depuis octobre 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a tout un jeu de partenariats avec des choses différentes. On a des participations réciproques à des instances, c'est-à-dire, par exemple, je suis rentrée au conseil scientifique du consortium québécois, la responsable du réseau libanais et la responsable du réseau québécois sont rentrées dans nos conseils scientifiques. On participe de façon mutuelle à nos comités d'expertise et de sélection d'ELEA. Le collègue québécois est aussi rentré dans un comité de rédaction d'une revue qui est mis en place par une personne d'ELEA. Voilà, des choses de ce type-là. Ensuite, on s'est invité à nos manifestations qui étaient à distance, parce qu'à partir du moment où on est à distance, c'est plus un problème. Et on a invité sur nos rendez-vous d'ELEA, sur nos rencontres internationales, on a invité les Québécois et les Libanais qui ont participé. On a été invité sur des cercles de lecture au Québec, voilà, des choses à distance, sur des invitations un petit peu formelles, informelles. Il y a eu différentes contributions de personnes d'ELEA et des personnes de la coordination d'ELEA à des différents moments, notamment un séminaire de recherche qui est organisé au Québec. Et puis au Québec, il y a un dispositif qui s'appelle Clin d'œil sur la recherche et qui est un dispositif qui a été mis en place l'année dernière, qui a été initié, qui est vraiment implanté cette année. L'idée, c'est que des équipes collaboratives, chercheurs et praticiens, puissent parler à des praticiens, des professionnels de l'éducation, de leurs recherches et de leurs résultats et de leurs ressources, de ce que ça peut apporter. Donc quand on parlait de valorisation, c'est un espace de valorisation. Et cette année, donc, ils en ont remis en place 10 et il y en aura, il n'y a pas un nombre défini. Les Léa peuvent participer, ils ont ouvert. Donc il y a un petit article dans le blog, on en a déjà un peu parlé à certains, via les référents. Et puis, dernière étape, c'est septembre 2022, la visite d'études au Québec, où une délégation libanaise et une délégation québécoise sont allées à Chicoutimi pour travailler ensemble, et je vais vous en parler un petit peu plus. Donc, toutes ces actions, c'est vraiment l'idée de se connaître, de s'acculturer, de comprendre les contextes des pays, le contexte des recherches collaboratives dans les différents pays. C'est de partager des expériences, des pratiques, des outils entre projets. Et à l'échelle des coordinations, petite anecdote, ils se sont fortement inspirés de nos outils d'évaluation pour faire leur sélection. Et en retour, on a remodifié les nôtres. Donc, c'est vraiment des enrichissements mutuels. Ça permet, on a beaucoup travaillé pour l'instant à l'échelle des coordinations, parce qu'on s'est dit que si on travaille entre deux Léa, enfin deux projets, c'est super bien, mais ça peut vite tomber en fait. Alors que si on donne la force à l'échelle des coordinations, on va pouvoir soutenir des partenariats à l'échelle d'un plus grand nombre de Léa. Et on a aussi ensemble mis au travail un certain nombre de questions à la collaboration, comme par exemple à la journée d'études, comme quand j'en parlais. Donc voilà différentes pistes de travail qui sont mises en place depuis janvier 2020, sachant que depuis 2018, c'était déjà tissé avec le réseau des Léal. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour cette année ? On a répondu avec les Québécois à un programme franco-québécois qui s'appelle le programme Samuel de Champlain et qui nous donnerait des finances pour justement continuer, permettre des déplacements de la coordination d'acteurs des Léa et continuer nos échanges. C'est un programme qui est plus québécois que français et une des personnes qui connaît bien le programme et qui a relu le dossier a dit que c'est un excellent dossier. Donc, on croise les doigts. On ne sait pas encore, mais en décembre, on saura si vraiment on l'a ou pas. Les Léal développent des liens avec le centre de recherche pédagogique, merci, du Liban, et en lien avec les Léal. Donc là, c'est un moment stratégique et important pour les Léal, qui sont un pays en grosse difficulté, et le réseau des Léal devient un réseau de recherche qui est vraiment identifié par le ministère et qu'ils essayent d'impulser et en partenariat avec nous. Les clins d'œil pour la recherche, j'en ai parlé. La journée scientifique, à savoir que, comme nous on fait notre rencontre internationale, ils font une journée scientifique le 1er décembre avec un partage des projets, des travaux, en sachant que c'est beaucoup plus petit en termes d'échelle. Chaque année, il y a 5-6 projets. Et nous inviterons, donc vous verrez un billet de blog avec un lien et vous pourrez participer pour ceux qui ont envie de voir un petit peu les projets qui se passent. Il y a l'idée d'impulser des échanges entre projets. Et notamment, il y en a un qui est bien amorcé avec le Léa Jules Ferry en musique, où il y a vraiment des choses intéressantes qui se sont tissées. Peut-être qu'à midi, vous pourrez aller les voir et en discuter un peu avec eux. Et l'idée, c'est de soutenir d'autres types d'échanges de ce type-là. Alors, si je vous parle maintenant de ce qu'on a fait à Chicoutimi, à l'UQAC, hein, l'Université du Québec à Chicoutimi, la semaine du 25 septembre, ce qui a été mis au travail, c'est la question du développement professionnel. Donc, je préciserai un petit peu pourquoi cette question. Et puis, je vous ai dit, c'est une vraie poutine scientifique. Ça veut dire que c'est pour le développement professionnel, vous y avez réfléchi un petit peu là. Hein. C'est compliqué, il y en a un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est ? Donc, avant d'en parler, je voulais juste faire une proposition en m'appuyant sur une référence d'Algero. Avec ses collègues Freinet et Poumet, l'idée que c'est déjà un processus, et que c'est un processus qui est complexe. Et j'ai retenu cette idée du double mécanisme. C'est un double mécanisme en jeu dans le développement qui montre pour l'acteur l'importance de prendre appui sur l'environnement. Donc on prend appui sur l'environnement, tout ce qu'il peut y avoir, et de ce fait d'intérioriser un savoir hétérogène qui vient d'un peu partout, à son propre champ de connaissances pour en tirer parti au moment où il agit dans l'action sous forme d'une réponse adaptée à la situation dans laquelle il est. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'internalisation en appui sur un environnement et d'un processus ensuite d'externalisation, un savoir agir et interagir en contexte. Et puis il y a l'idée aussi que c'est un processus complexe qui est inscrit dans une temporalité, dans du temps, avec une dynamique d'engagement personnel ou collective. Et vous voyez qu'en fait, on trouve quand même pas mal de choses et de mots-clés. Finalement, quand on est dans une recherche collaborative, on est en interaction avec tout un environnement extrêmement riche dans lequel on va pouvoir internaliser des choses et qui vont nous permettre ensuite d'agir en situation. Et puis cette dimension de l'articulation entre l'individuel, le personnel et le collectif. Donc il y a cette idée sous-jacente que les travaux collaboratifs de recherche ils soutiennent le développement professionnel et que ce développement professionnel soutient et que c'est ça se nourrit un petit peu dans les deux sens. Donc ça c'est un peu pour répondre au travail que vous venez de faire et puis pour préciser pourquoi on travaillait là-dessus. Alors si je redonne aussi un fil pourquoi cette question, en fait, hein, il y a plusieurs choses. Je vais les prendre dans un ordre, mais c'est pas forcément linéaire. Hein. C'est pas des relations entre les différents. On a travaillé l'année dernière à la rencontre internationale sur la question du sens et de la valeur des projets construits dans les Léa. Et dans le sens et la valeur des projets, il y avait cette idée qu'est-ce que ça produit aussi à Léa, et dans qu'est-ce que ça produit, il y avait, dans les éléments que vous avez échangés, ça produit notamment, pas que, mais du développement professionnel. Il y a cette idée que les personnes qui sont engagées dans ce type de projet depuis un certain temps, il y a un espèce de constat, quand j'ai espèce parce que c'est un peu empirique, mais il y a un constat ressenti de développement professionnel un peu pour les différents acteurs ou pour soi-même. Et puis cette idée que ce développement professionnel, il est pour tout le monde, tous ceux qui sont engagés dans le bateau. Donc les acteurs éducatifs, donc les enseignants, mais le chef d'établissement, le CPE, enfin ça dépend qui est dans le bateau, hein. Et puis les chercheurs, les étudiants, les ingénieurs pédagogiques, enfin toutes les personnes qui sont présentes. Il y a cette idée encore que c'est souvent une visée dans de nombreux projets d'ELEA, pas tous. Mais ce qui me permet de dire ça, c'est qu'en fait, quand on a proposé les thématiques et qu'on vous a demandé de cocher, il y a, alors je n'ai pas le nombre exact en tête, moi, mais il y a plus d'une moitié de Léa qui a coché que dans leurs objets d'études, il y avait le développement professionnel. Et quand on questionne, est-ce que c'est vraiment l'objet d'étude ? Parce qu'en fait, l'objet d'étude, ça veut dire qu'on a posé ces questions de recherche sur le développement professionnel et c'est que ça qu'on étudie, et il y en a un certain nombre dans les Léa. Mais même quand ce n'est pas l'objet d'étude, c'est tellement fort et intrinsèque que ça va faire ou que ça fait ou que c'est important pour le Léa que ça fasse du développement professionnel, on sent que c'est très présent. Après, ça questionne parce que, voilà, il y a des personnes qui l'ont étudié et ça produit du développement professionnel assez, voilà, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que l'institution en fait ? Comment est-ce que l'institution le reconnaît ? Voilà, donc ça c'est une vraie question pour le réseau. Pourquoi on a choisi cette thématique avec les collègues libyennais et québécois ? Parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est pour tous les trois pays, on se pose les mêmes problèmes, les mêmes questions. Et puis aussi parce que, par nos financeurs, il y avait aussi une attente par rapport à ça. Soyons clairs aussi. Et puis pour finir, c'était prévu qu'on aille au Québec. Et en allant au Québec, eh ben, les Québécois, en fait, ont toute une réflexion, et Virginie en reparlera, sur la collaboration et sur les dispositifs de co-formation très riches. Donc c'est aussi une occasion d'échanger avec eux là-dessus. Voilà. Donc c'était vraiment cette idée de questionnement qui était partagée dans les réseaux et qu'on a décidé, alors quand je vais dire de mettre au travail, mais c'est pas de découvrir, parce qu'en fait les Léa se posent ces questions depuis leur origine, et les autres réseaux aussi, et il y a des travaux qui sont engagés et qui ont été engagés sur ces questions. J'ai mis que deux références à titre d'exemple, et pas du tout, voilà, et j'ai mis une référence au Québec et une référence en France, de recherche qui portait vraiment sur la question du développement professionnel dans un Léa ou dans un projet du consortium. C'est quelque chose aussi, c'est un questionnement qui nous tient à cœur, et on est dans un cours d'une étude exploratoire actuellement à partir d'un corpus qui est les bilans que vous renseignez, les articles de blog, vous parlez de votre activité, et puis du site aussi, des projets, des dossiers de candidature, donc un certain nombre de traces que vous laissez et qu'on essaye d'analyser pour essayer de trouver des traces de questionnement en relatif au développement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au Québec? On s'est posé un certain nombre de questions. Hein, comment on le caractérise? Comment on le repère? Hein, comment on peut le soutenir? Comment on peut le faire reconnaître au niveau institutionnel, au niveau universitaire? C'est un peu les questions qui ont animé la semaine. On a partagé des études, des cas théoriques, des cas méthodologiques pour saisir le développement professionnel. On a partagé dans nos différents contextes de pays les modalités de reconnaissance. On a parlé notamment en France du DE Passeur sur le plan des diplomations et d'un diplôme qu'ils sont en train de mettre en place pour les acteurs qui sont dans leur projet, pour compléter leur formation et pour valider des crédits d'enseignement. Donc c'est des pistes intéressantes si les gens qui sont dans les LEA pouvaient voir comment avoir des crédits pour certains masters, comme le Master PIF. Enfin, il y a sûrement des réflexions à avoir sur ces points-là. On a travaillé aussi la question du développement professionnel en lien avec l'écriture et la coécriture. C'est un moment réflexif, on formalise, il y a du développement professionnel qui s'y passe. Et là, c'est dommage, c'est Aurore qui aurait pu vous en parler, mais elle ne va pas vous en parler, mais elle va faire un rendez-vous dès Léa où elle vous en parlera. Et il y a un article sur le blog, déjà en cours. Et puis, ils nous ont présenté différents dispositifs de co-formation professionnelle dont Virginie va vous parler. Vous pouvez retrouver des traces, il y a plusieurs articles qui ont été produits sur le blog sur tous ces points-là. À partir de cette adresse, vous retrouvez tous les articles et on va faire un coin neuf spécial Québec, comme ça vous les aurez d'un coup et vous retrouverez tout ce qui s'est passé.
Tout ce que je vais vous dire sera l'objet d'un billet de blog et d'un document qui sera beaucoup plus complet sur tout ce qu'on a pu apprendre sur les dispositifs de co-formation pendant cette semaine-là. En préalable, au Québec, ils ont des habitudes de travail collaboratif qui sont beaucoup plus développées que chez nous et qui sont en lien avec le développement professionnel dans tous les domaines professionnels, y compris du coup en éducation. Donc nous, on a découvert là-bas des dispositifs de co-formation particuliers. Ça nous semble intéressant de les partager avec vous parce que ça rentre en résonance avec des problématiques de recherche collaborative, il nous semble. Et certains de ces dispositifs sont étudiés aussi par nos partenaires, donc c'est de la recherche collaborative sur des dispositifs collaboratifs. Donc il y a deux dispositifs principaux qui ont été évoqués, les COP et les CAP. Donc les COP, ce sont les communautés de pratique. Donc c'est des groupes qui vont... c'est des regroupements de personnes qui ont en commun... une expertise, un domaine particulier, une pratique professionnelle. Donc chaque rencontre va pouvoir aborder une thématique particulière, propre à chaque participant. C'est pas forcément une thématique qui va être filée sur plusieurs rencontres. Et les rencontres vont donner lieu à des productions de ressources, donc des fiches de synthèse, des outils, peu importe. Et moi, je vous parlerai tout à l'heure, dans ces communautés de pratique, d'une modalité particulière, plus particulière, qui est le groupe de co-développement. Il y a également les CAP. Alors avant les CAP, il y a les CA. Les CA, c'est les communautés d'apprentissage. Et les communautés d'apprentissage, tout simplement, elles vont regrouper des individus qui ont la volonté d'apprendre, de se développer, et elles se regroupent ensemble. Et moi, je vous parlerai des CAP, donc les communautés d'apprentissage professionnel. Ces dispositifs ont des points communs. Je vous vois prendre des photos, vous aurez le diaporama aussi, hein. Il n'y a pas de souci.
Petite parenthèse, j'en profite. Vous aurez toutes les diapos passées dans la journée, en fait, qui seront sur le site très prochainement. Voilà.
Donc il y a des points communs entre ces dispositifs. Déjà, avant de rentrer dans le détail, il y a du partage de pratiques qui se fait, du partage de connaissances, du partage de valeurs. Les valeurs sont souvent évoquées. Il y a un dispositif qui est plutôt horizontal, il y a une réflexivité des acteurs qui est induite par les dispositifs, et il y a tout ce qui est co-investigation, co-construction de sens qu'on va retrouver dans ces dispositifs. Donc je vais commencer par vous parler des groupes de co-développement professionnel. Donc les groupes de co-développement, c'est vraiment des structures qui ont été définies de façon très très précise par les chercheurs qui sont indiqués, donc Payette et Champagne. C'est une modalité des communautés de pratique. Donc ça va regrouper des individus, toujours, mais ça va être en 6 étapes, très très structurés, toujours les mêmes, et ça va partir d'une situation professionnelle qui est évoquée par un des acteurs. Et je vous ai mis une citation des auteurs. C'est une approche de formation qui mise sur le groupe et sur les interactions entre les participants pour favoriser l'atteinte de l'objectif fondamental qui est d'améliorer la pratique professionnelle. Donc c'est vraiment des groupes qui sont orientés pour ça. Les 6 étapes des groupes de co-développement, c'est celles que vous voyez. Donc la première, donc c'est des réunions qui se déroulent, ça peut être autour d'une heure, c'est pas des réunions qui sont longues. Hein. Donc première étape, exposer de la situation par un des participants. Donc il explique sa situation problématique sur laquelle il veut qu'on travaille. Deuxième étape, la collecte d'informations. Les autres participants vont lui demander de préciser plein de choses. Donc on revient toujours au terrain. Qu'est-ce que pour préciser vraiment la situation qui est évoquée. Ensuite, synthèse et attente du témoin. On va demander à la personne qui a témoigné ce qu'elle attend. Est-ce qu'elle attend de l'analyse? Est-ce qu'elle attend des solutions, par exemple? Ensuite, on va analyser la situation. Donc chaque participant va pouvoir donner son point de vue et ses solutions éventuelles s'il en voit. Ensuite, il y a une phase de synthèse et plan d'action. Un des participants qui a été choisi en amont fait la synthèse de tous les propos qu'il y a eu pendant la rencontre. Et la dernière phase, qu'ils appellent apprentissage, chaque participant va expliquer ce qu'il a retenu, ce qu'il a appris de cette rencontre-là. C'est toujours sur des temps qui sont très courts, je vais vous ouvrir, hop, et ça donne toujours lieu à la restitution d'une synthèse. Je vais vous montrer juste un exemple pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est des synthèses qui ressemblent à ça. Je diminue un peu. Donc on voit...
Ça se projette pas.
Ah. Ouais, c'est... Enfin, bon, alors, je voulais vous montrer plus avant, en fait, ce qui est intéressant, mais vous pourrez aller voir, c'est la partie sur les apprentissages, où on voit bien les particularités du terrain québécois, et notamment l'importance sur laquelle tu reviendras peut-être, de tout ce qui est compétences psychosociales, bien-être de l'élève, et le rapport aux élèves qui n'est pas toujours le même que chez nous. Donc, voilà, il y a toujours une synthèse à la fin. Nos partenaires ont fait une recherche sur un dispositif de co-développement professionnel. Donc c'était un dispositif qui avait lieu entre enseignants de collégiale. La collégiale, c'est accueille des élèves de 17-18 ans à peu près. Et donc ils ont mis en place ce dispositif de co-développement avec 8 enseignantes collégiales qui étaient accompagnées par 2 conseillers pédagogiques et qui se sont réunis 4 fois dans l'année. Sur des thématiques différentes, du coup, à chaque fois. Donc, il y avait, par exemple, aborder les sujets sensibles en cours. L'équipe de recherche, elle a mené ce qu'ils appellent une recherche action-formation sur ce dispositif de co-développement. Elle a travaillé à partir des synthèses produites à la suite de chaque réunion, d'un questionnaire et d'un focus group. Et elle a relevé, du coup, quelques éléments d'analyse. Alors, c'est vraiment préliminaire, ils en sont au premier stade d'analyse des résultats. Mais voilà, il y a déjà quelques résultats qui apparaissent. Donc le fait que dans ces réunions-là, on partage des savoirs professionnels sur les élèves, des savoirs pédagogiques, des savoirs contextuels, qu'il y a également des savoirs identitaires et collaboratifs qui vont émerger. Par exemple, la nécessité d'être bienveillant envers soi-même. Les participants se rendent compte qu'envers eux-mêmes, il faut qu'ils soient bienveillants. La prise en compte que le groupe aussi peut les faire avancer dans leur développement professionnel. Ensuite, ils ont repéré des éléments facilitateurs. Donc, dans les éléments facilitateurs, ils notent la taille du groupe. Donc, eux, c'est plutôt des groupes entre 8 et 12 participants. Le temps, donc un temps qui soit court et qui soit minuté, qui soit très, très structuré. Le rôle de l'animateur, du coup, qui va organiser les débats et structurer la discussion. Et évidemment, un climat de respect et de confiance, mais qui revient toujours. Dans les éléments de défi, donc plus problématiques qu'ils identifient, il y a aussi cette problématique du temps, parce qu'à la fois, un temps court, c'est très très bien, et en même temps, les participants, parfois, ils ont envie d'échanger davantage. Donc ça, c'était pour les groupes de co-développement professionnel. Et je vais vous parler maintenant des CAP. Donc les CAP, c'est les communautés d'apprentissage. Donc... Une communauté d'apprentissage, ça va, je vous l'ai dit, réunir des personnes qui ont la volonté d'apprendre, de se développer. L'objectif principal ici, c'est toujours le progrès des élèves. Il y a dans la définition théorique des CAP un engagement volontaire des participants, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des démarches collectives d'analyse et de réflexion sur la pratique des participants. Et il y a toujours une observation des progrès des élèves, une observation qui va être mesurée. Donc on va aller évaluer les élèves et on va travailler à partir des évaluations des élèves. Je vous ai mis une citation qu'on trouve sur un des sites qui parle des CAP au Québec. « Nos meilleures idées viennent des autres ». Et moi, je vais vous évoquer une CAP en particulier dont on nous a parlé. Donc c'est une CAP qui portait sur l'enseignement de la lecture, qui se déroulait donc dans le secteur sur lequel on était, dans 5 écoles. C'était des écoles plutôt isolées avec des classes de cycle, donc qui réunissaient deux niveaux à chaque fois. Donc on avait 5 écoles. Hop, je crois que je l'ai marqué là. Donc c'est des écoles primaires. Écoles primaires, ça accueille des enfants de 5 à 10 ans. Les enseignants avaient déjà des habitudes de collaboration puisqu'ils participent à un dispositif qui s'appelle École en réseau, qui regroupe des écoles au départ plutôt isolées de tout le Québec. Il y avait une demande institutionnelle au départ, c'est pour ça que je vous dis que l'engagement volontaire des participants, là dans les CAP, dans la CAP dont je vous parle, c'était pas le cas. Il y a une demande institutionnelle, c'est-à-dire que l'institution veut qu'on mette en place ces CAP pour que les élèves progressent davantage. Donc, dans ces CAP, il y a les enseignants des 5 écoles qui vont être réunis par cycle. Il va y avoir une conseillère pédagogique qui est celle qui nous a présenté le projet et qui accompagne la structure. Mais il y a aussi d'autres partenaires. Il y a les directions d'établissement, il y a les orthopédagogues, donc c'est comme des maîtres spécialisés pour eux, des enseignants spécialisés, des orthophonistes ou des experts en fonction des situations qui sont évoquées. Le fait qu'elle soit portée par l'institution, donc du coup, c'est pas un engagement volontaire des participants au départ, mais du coup, ils ont quand même du temps qui est dégagé pour pouvoir participer à ces structures. L'objectif, je vous l'ai dit, il est toujours en lien avec les programmes scolaires. On va prendre le programme, quelles sont les compétences en lecture du programme attendu pour chaque niveau de cycle, et on travaille avec ça, et comment faire pour que les élèves les atteignent. Cette CAP, elle s'est déroulée en 2 mouvements, si on peut dire. Donc d'abord, il y a eu 3 journées réparties sur l'année, donc en gros novembre, janvier, mars. Donc des journées de travail entre tous les enseignants. Et pendant ces journées-là, notamment, les enseignants, ils ont travaillé à déterminer les compétences essentielles dans les programmes. Donc ils prennent les programmes scolaires et ils regardent ce qui est essentiel ou pas pour eux. Ils ont travaillé à se fixer des objectifs de réussite mesurables par les élèves. Ils ont travaillé sur les stratégies d'enseignement et ils ont construit des évaluations pour pouvoir évaluer les résultats des élèves. Ils ont fait plein d'autres choses, mais ça entre autres. Ces journées-là, elles leur ont permis de mettre en place des séquences d'enseignement. Et ces séquences d'enseignement, elles ont été ponctuées par 3 prises de données sur le terrain, donc 3 évaluations d'élèves. Et entre chaque évaluation d'élèves, il y avait une visio d'une heure pour analyser les résultats des élèves, pour faire de la rétroaction. Ces analyses, elles étaient faites avec un orthopédagogue qui était là aussi et qui pouvait aider les enseignants s'ils avaient des questions pour analyser les résultats. Donc après la CAP, c'est le bilan que nous a fait la conseillère pédagogique de cette démarche-là. Donc c'est vraiment son retour à elle sur la façon dont ça s'est passé. Elle nous a parlé de l'implication progressive des enseignants, c'est-à-dire qu'au départ, les enseignants, dans les rencontres, étaient très centrés sur leur pratique à eux-mêmes et avaient beaucoup du mal à écouter les autres. Et au fur et à mesure, ils ont vu qu'ils arrivaient à s'ouvrir à ce que leurs collègues pouvaient dire. Elle nous a parlé également de la transférabilité de la démarche, mais pas des outils. Donc pour elle, ces CAP, elles produisent des outils, elles produisent des ressources, puisqu'il y a des évaluations, il y a des façons d'enseigner, des stratégies d'enseignement qui sont partagées, qui sont co-construites. Donc, mais déjà dans la CAP, pour elle, c'était très important que chaque enseignant adapte ses outils, et eux, ils lisent à sa couleur. Et pour elle, elle va plus loin en disant que même ces outils produits ne peuvent pas être utilisés par d'autres enseignants dans d'autres écoles du même secteur, parce que ce qui prime pour elle, c'est toute la démarche de la CAP, qui est la seule chose qui va permettre aux enseignants de s'approprier les outils construits à la fin. Elle nous a parlé également du cadre organisationnel, donc l'importance de cadrer les objectifs dès le départ, d'avoir une temporalité de rencontre qui soit bien affichée, des outils pour communiquer entre les rencontres, etc. etc. Elle nous a parlé des modifications de pratiques qui ont été évoquées par les enseignants. Donc, en tout cas, d'après elle, il y a eu beaucoup de pratiques qui ont pu être modifiées. Par exemple, des enseignants qui travaillent maintenant avec des sous-groupes de besoins alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Mais elle nous a donné plein d'autres exemples. Et l'appropriation de la démarche, puisque les enseignants de ces écoles ont choisi de réorganiser leur temps scolaire, donc d'enlever 6 minutes par jour à leur temps d'enseignement pour pouvoir se libérer une demi-journée de travail collaboratif par mois, tous ensemble. Donc c'est vraiment une démarche qu'ils ont appréciée et qu'ils utilisent pour d'autres choses après. Tout ça pour arriver à des pistes de réflexion éventuellement pour la collaboration dans les Léa. Évidemment, il y a beaucoup de modalités de collaboration qui sont déjà expérimentées. Néanmoins, il nous semble que voilà, ça peut peut-être amener, en fonction de là où vous en êtes, des pistes de réflexion pour mettre en place différentes choses. On en a relevé ensemble quelques-unes. Il y en a plein d'autres et vous ne serez pas forcément d'accord avec celles que j'ai mises. Ça, à chacun de s'adapter, de voir. Un premier aspect qui nous paraît important, c'est de tout le travail en amont des réunions, que ce soit celle des COP ou celle des CAP. Le fait que, donc c'est une évidence, mais c'est bien aussi de le formuler, quand les participants ont des habitudes de collaboration, la collaboration est plus facile. L'importance également d'expliciter le cadre du travail, donc de formuler en amont le temps des rencontres, la fréquence, le calendrier, les attendus précis pour tous les participants. L'importance de la première rencontre aussi pour fixer ce cadre-là. Et également, ce qui nous paraît important, c'est évidemment l'accompagnement institutionnel pour que les enseignants aient du temps libéré pour pouvoir participer et s'engager. Donc là, dans les dispositifs dont on nous a parlé, il y a du temps dégagé parfois et il y a aussi du temps qui est pris sur les pauses de midi, sur des réunions qui durent une heure en visio. Il y a les deux. Ensuite, par rapport au contenu des rencontres, ce qui nous a paru intéressant, c'est que le contenu est toujours prévu en amont et structuré. Cette histoire de groupe de co-développement très très structuré, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant au niveau des résultats que ça produit en tout cas. L'importance du terrain aussi, puisque dans les groupes de co-développement, on part d'une situation professionnelle qui est vraiment située. Dans les CAP, on revient toujours au terrain pour prendre des données. Et la possibilité de faire appel à des experts ou des personnes ressources. Donc ça peut être des enseignants qui sont considérés comme experts dans un domaine, c'est-à-dire que les gens se réunissent en CAP ou en COP, et là ils voient que ils ont besoin d'expertise supplémentaire, et donc il y a la possibilité de trouver des personnes qui vont intégrer pour une rencontre ou deux rencontres et pouvoir répondre à leurs questions. Et enfin, il y a la forme des rencontres qui nous paraît intéressante également. Donc cet aspect de temps limité et organisé, c'est vraiment vraiment très très cadré hein, leur dispositif. La taille du groupe qui est importante aussi, le rôle de l'animateur, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vraiment un rôle qui est fondamental, qui chez eux est souvent fait par les conseillers pédagogiques. Les outils pour poursuivre les échanges, quand les enseignants veulent échanger entre des réunions en présentiel ou en visio. Donc eux, ils utilisent beaucoup Teams, par exemple, parce qu'il y a des espaces de discussion et des espaces d'échange de documents. Et évidemment, la nécessité de mettre en place un climat de confiance et de respect dans ces dispositifs. Donc encore une fois, plus de détails sur le site, là c'était vraiment juste une approche, la semaine a été très très riche sur tous ces dispositifs-là.
Dans tout ce qu'a relevé Virginie, on est dans le cadre de dispositifs de formation d'acteurs éducatifs, mais on voit qu'il y a des éléments en fait qui croisent les préoccupations de la collaboration dans des dispositifs où il y a recherche et acteurs éducatifs. Et on se disait que finalement ces dispositifs, en les regardant de plus près, c'est peut-être que ça peut outiller le travail collaboratif au sein d'un Léa pour soutenir la recherche et pour soutenir le développement professionnel. Avec cette idée que quand on collabore et quand on travaille, on peut se mettre autour d'une table et parler. Mais quelquefois, on peut aussi s'appuyer sur des techniques de dispositifs qui facilitent la réflexion, la réflexivité, la collaboration. Ça a été travaillé dans certains Léa, et notamment dans le Léa Ampère avec le projet Perémat qui s'est poursuivi, où il y a eu des méthodologies de design thinking qui ont été mises en place, et c'est documenté, il y a un lien où vous pourrez aller voir, mais il y a cette idée de comment outiller, instrumenter le travail de la collaboration entre les enseignants, ça dépend, pas que, acteurs éducatifs et chercheurs. Ça, c'était une piste. La deuxième piste, c'est le réseau se pose des questions transversales qui préoccupent tout le monde sur des questions de collaboration. Des questions de collaboration qu'on travaille notamment dans les rendez-vous d'Eléa, où on s'est amené à se poser de comment on prend les logiques en compte, les logiques des différents acteurs, comment est-ce qu'on recueille des données quand on travaille en collaboration. Comment... Il y a plusieurs questions qui venaient du réseau et qu'on a travaillé en petits groupes. On peut dire que les rendez-vous, c'est des dispositifs de co-formation quelque part, des acteurs du réseau sur ces questions de collaboration. Eh bien, ces dispositifs peuvent peut-être amener à réfléchir, à outiller encore davantage nos dispositifs. Et dans ce sens-là, il y a une réponse, on est partenaire d'une réponse à un appel à projet du consortium québécois, dans lequel les Libanais et les Français peuvent être partenaires. Et leur problématique, c'est de mettre en place des groupes de co-développement professionnel sur des questions relatives aux recherches collaboratives et d'analyser, de documenter, d'analyser ce que ça fait, ce que ça produit et ce que ça peut apporter, ce type de dispositif. Voilà. Donc des perspectives et des éléments de réflexion. Les références, vous pourrez les retrouver. Et puis on va donner la parole à Laurent.
À midi.
Non, mais t'as dit.
Bon, je vais essayer de faire vite. Alors, en fait, quand on s'est réunis, on s'est dit ça serait bien que tu parles pour avoir un retour d'enseignants sur un peu cette visite d'études. Donc voilà, c'est un peu ma mission. Et alors, quand j'étais dans le train, je commençais à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Et je me suis dit, la première chose à dire, c'est peut-être un simple merci d'avoir ouvert l'opportunité de participer à cette visite d'études. Alors, un merci qui, pour moi, n'est pas anodin, parce qu'en réalité, bon, on peut le souligner sans forcément s'y résigner, mais force est de constater qu'il est rare pour, dans une carrière d'enseignant, à l'heure actuelle, de prendre le temps de décélérer, de sortir de la tête du guidon des pratiques pour découvrir et puis s'enrichir d'informations sur des systèmes éducatifs ou des fonctionnements éducatifs différents. Alors bien sûr, on peut les découvrir dans la littérature, dans des ouvrages, dans des articles, dans des témoignages, mais ce qui est intéressant dans cette visite, c'est qu'on les découvre par la friction du réel, par la friction des échanges, et pour moi, c'est important. Donc voilà, merci pour ça. Alors, moi j'insiste un peu sur pourquoi les échanges seraient plus importants que finalement découvrir un système éducatif dans un témoignage écrit. C'est que dans un témoignage écrit, on échappe quand même à l'informel. C'est-à-dire que dans cette semaine, bien sûr, on a eu des formalisations, des échanges oraux formalisés dans un cadre, et puis il y a eu aussi toute une série d'échanges dans un cadre hors cadre, en réalité. C'est tout ce qui est l'informel. Et il me semble, en tout cas, je pose l'hypothèse avec vous, que dans l'informel se jouent aussi des choses qui contribuent peut-être un peu au développement professionnel. Donc j'ai ramené dans la besace quelques extraits de situations informelles que je vous propose modestement, là, et rapidement peut-être, d'explorer. Et pour montrer en quoi ça a pu jouer, en tout cas pour moi, et puis je vous le partage. Ouais. Alors, première situation informelle que je vous ramène, c'est Rim. Donc Rim, c'est une enseignante-chercheuse qui travaille dans les Léal, et qui vient donc du Liban. Et donc à la pause café filtre, bien sûr, ça c'est l'Amérique du Nord, oblige, elle me dit un peu la chose suivante, elle a fait, mais tu sais, chez nous, c'est vraiment, on construit la société, c'est un vrai brassage culturel, et c'est ça qui nous fédère, quoi. Voilà. Et là, en fait, moi, j'ai eu un peu un éclair de lucidité en me disant, mais oui, en fait, c'est vrai que le point commun entre le Québec et le Liban, enfin le Canada plus vaste, plus globalement, et puis le Liban, dans leur histoire récente, c'est le multiculturalisme, qui n'est pas forcément le cas ici. Et j'ai osé penser que peut-être qu'il y a là une origine qui conditionne pas mal de choses, notamment dans l'approche scolaire, par exemple. Parce que dans l'approche scolaire, nous, on fait tout un enjeu de l'inclusion, alors qu'en réalité, dans une approche multiculturalisme, eh bien, l'inclusion, c'est toujours un souci éducatif, mais c'est inclus dans la société, comment on voit la société, parce qu'on voit la société comme partir des différences pour construire le collectif, alors que dans d'autres sociétés, on peut voir le collectif comme quelque chose de très normalisant, en réalité. Et donc, l'inclusion est là un réel problème dont il faut se saisir. Voilà, et puis une répercussion aussi sur ce qui était en jeu, c'est-à-dire la recherche collaborative, parce que là aussi, c'est comme si c'était un peu inscrit dans un ADN culturel, le fait de collaborer avec ces différences. Et pour nous, c'est un peu en dehors de notre ADN, donc il faut s'y acculturer, il faut s'y familiariser, et c'est pas si évident. Voilà. Et puis, alors, pour aller un peu plus loin, là, je saute directement sur la photo. Là, c'est une autre situation informelle dans une visite d'école. Donc, j'ai pris cette photo-là parce que ça me plaisait assez bien. C'est une affiche et il y a marqué, donc, gère ta fougère. Donc, ne comprenant pas très bien ce qui était en jeu dans cette affiche, j'ai demandé à une conseillère pédagogique qui nous a accompagnés, d'autant plus qu'on a retrouvé la même affiche dans deux écoles différentes. Et elle me dit, si, mais tu sais, pour nous, c'est très important aussi les compétences psycho-affectives, ce qu'on peut appeler aussi les compétences psychosociales. Donc, la fougère représentant pêle-mêle à la fois les autres et à la fois soi-même, son bien-être, etc. Et en fait, quand on dézoome un peu le regard, on voit que dans une salle de classe, elle est un peu, j'allais dire, mitraillée, je ne sais pas si c'est le vrai mot que vous en faire, mais en tout cas, elle est tapissée d'affiches qui rappellent ce que sont les compétences psychosociales, les stratégies possibles, les démarches, et qui est du coup faite pour les élèves, quoi. Voilà. Et puis les élèves aussi, en tout cas, chez nous, du coup, dans le premier degré, ils ont, donc au Québec, une heure formelle organisée pour parler, pour apprendre les compétences psychosociales. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup interrogé parce que j'ai vu cette place des compétences psychosociales très forte dans le système éducatif québécois. Alors, ça a posé un dilemme un peu professionnel que je vous partage. Et puis qu'on partage aussi à la Cardie de Créveil, parce qu'on voit bien que les compétences psychosociales, ça rentre un peu dans l'innovation pédagogique, en tout cas dans l'intérêt des collègues maintenant. Et donc, le dilemme qui s'est offert à moi, c'est de dire, mais en fait, est-ce qu'elles s'envisagent uniquement en les décorrélant des apprentissages disciplinaires, ou faut-il au contraire les percevoir comme une association? Bon, clairement, au Québec, le choix est un peu fait de les décorréler. Hein. Ensuite, une autre situation informelle, c'est en allant dans cette même école, on parlait un peu du fonctionnement éducatif, du coup, avec Loïc. Donc Loïc, c'est un enseignant-chercheur au Québec, et qui nous disait, oui, tu vas voir, ici, c'est la directrice qui va nous accueillir, et c'est pas du tout pareil qu'en France, hein. La directrice, là, elle a un budget qu'elle organise comme elle veut, etc. Et puis, en plus, elle est maître un peu du recrutement des enseignants. Alors tout de suite, j'ai un peu stoppé ma marche. Ils sont quoi, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dérive et autres? Donc voilà. Alors, c'est marrant, il a répondu en disant, oui, mais en fait, en France, ça ne pourrait pas marcher parce que vous n'avez pas le leadership collaboratif. Alors, je me suis encore arrêté parce que j'ai l'impression que cette formulation de leadership collaboratif, pour moi, elle m'a beaucoup interrogé parce que moi, j'y vois rien de plus qu'un énorme paradoxe. Mais en fait, en me documentant un peu, là, il y a les travaux de Caroline Letor qui en parle assez bien. Alors, on voit bien l'idée, ce serait un fonctionnement sociocratique, bien sûr, beaucoup plus horizontal, dont parlait Virginie tout à l'heure sur l'horizontalité. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que on voit bien, c'était dans leur ADN culturel, ça rejoint un peu la réflexion que je vous partage au départ sur le multiculturalisme, cette fois c'est bon. Et du coup, l'autre dilemme professionnel qui s'est un peu offert et que je vous partage, c'est, mais ce qui a été d'ailleurs dit aussi par les Québécois lors d'une réunion, c'est en fait, est-ce qu'il faut changer d'abord la culture pour ensuite changer la structure éducative, ou au contraire, faut-il changer la structure éducative pour changer la culture? Bon, nous, dans notre Léa, on s'intéresse aux conflits socio-cognitifs, on voit là où parfait qu'une bonne situation problème. Ensuite, une autre situation informelle, c'est Nathalie, donc c'est une doctorante québécoise qui travaille un peu sur, en gros c'est des groupes de développement, voilà, un peu ce qui a été présenté comme les CAP ou les COP. Et elle, à la pause, du coup, on explicite un peu son propos, et elle dit, mais tu sais, moi, ils sont tous sur leur laptop à midi. Parce qu'en fait, son groupe de développement, elle le fait en distanciel. Et du coup, moi, ma première suspicion, c'est de dire, mais est-ce que les collègues s'inscrivent dans la continuité? C'est-à-dire ceux qui se connectent au début, est-ce qu'ils se connectent tout le temps, etc. Enfin, voilà, j'interrogeais un peu cette modalité, parce qu'on parlait de la forme tout à l'heure, il y a quand même la forme assez prégnante du distanciel. Alors, le point commun du Liban, de la France et du Québec, c'est qu'on y a tous plongé tout azimut, suite, bien sûr, à la pandémie. Une singularité du Québec et du Liban, c'est que eux gardent encore beaucoup ça dans leur système éducatif, enfin, en tout cas, dans ces groupes de développement, par exemple, ils sont pensés en distanciel beaucoup. Pas exclusivement, mais beaucoup. Et alors, au Québec, ça se comprend assez bien, parce que vu la densité, l'étendue du territoire, pour faire collectif, pour se rencontrer, simplement, le distanciel s'offre comme une opportunité tout à fait satisfaisante. Et au Liban, les crises traversées, forcément, aussi, ramènent au distanciel, de fait. Alors moi, un autre dilemme professionnel, désolé, je vous en partage beaucoup, mais c'est de dire, bon, alors, il s'agit pas d'exclure le distanciel comme un recours pour faire des groupes de développement professionnel, parce que ça a son intérêt, notamment quand on inclut la dimension temporelle, là, le temps limité. Finalement, oui, en effet, pourquoi pas le faire sur le distanciel, en distanciel. Mais la question est comment on fait pour insérer du temps informel dans le distanciel, parce que j'ai bien peur que, du coup, le recours au distanciel formalise uniquement sur du formel, de fait, Et où est la place de l'informer? Est-ce que j'essaye de, là modestement de vous démontrer qu'il a quand même son importance dans la réflexivité et dans la résonance des acteurs, quoi. Voilà. Et dernière situation informelle que je vous ramène, c'est la dernière, mais c'est pas la moins importante, peut-être la plus en dehors de notre propos, quoique. En fait, c'est du coup Nadine, qui est enseignante au Liban, qui, en attendant l'avion du retour, on parle un peu des crises un peu traversées au Liban, mais de sa situation un peu personnelle et puis collective des enseignants. Et elle me dit, mais tu sais, malgré tout ça, les enseignants, ils se lèvent et ils vont quand même en classe, quand même. Alors quand même, parce qu'en fait, elle nous apprend que les enseignants, du coup, ils ont vu leur salaire diminuer d'un facteur 10, et que la moitié de leur salaire, du coup, est gelée par le système bancaire, ils ne peuvent pas retirer ou profiter de cet argent. Alors forcément, là on s'interroge un peu, et elle dit quand même, ben voilà, les collègues ils se lèvent, ils y vont quand même. Et ça m'a marqué, alors c'est pas forcément un dilemme professionnel, mais c'est peut-être une balise professionnelle, quand on s'intéresse au développement professionnel, comme on peut le faire là, et comme on l'a fait pendant cette semaine, il faudrait pas non plus oublier, parce que souvent quand on a le développement professionnel, on pense beaucoup aux enseignants, parfois aux chercheurs, aux autres acteurs, mais donc c'est quand même la focale, elle est sur les enseignants, et on peut bien sûr questionner le développement professionnel, mais en matière de conscience professionnelle et d'intégrité professionnelle, je trouve que c'est une trace qui documente assez bien ça, à l'heure où parfois on peut remettre ça en question. Voilà, je trouvais ça assez fort. Voilà, j'ai fait vite, parce que le plus important, c'est les échanges formels ou informels, vous en trancherez, qu'on peut avoir maintenant. Voilà.